Le journal Camille Magnard, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Deux gardes à vue en cours pour les deux collaborateurs de l'Élysée accusés d'avoir frappé des manifestants le 1er mai dernier. Le principal d'entre eux, Alexandre Benalla, est licencié par la présidence de la République qui n'en échappe pas moins aux critiques pour avoir longtemps étouffé cette affaire. C'est ce que nous verrons avec Antoine Maret. Nous entendrons également un spécialiste de la sécurité de nos chefs d'État, le colonel de gendarmerie en retraite, Alain Carreau, qui s'interrogera avec nous sur le rôle occulte joué par Alexandre Benalla dans l'entourage proche d'Emmanuel Macron. Le gouvernement veut repeindre en vert nos habitudes de transport. Il accélère les mesures d'incitation à utiliser des transports de moyens propres. Précision dans ce journal avec Hélène Fromanti. Un amendement de plus à notre constitution. Les députés ont validé hier cette modification qui avait suscité une levée de bouclier à gauche il y a deux semaines. Le terme protection sociale vient s'ajouter à celui de sécurité sociale sans le remplacer pour autant, nous dira Catherine Pétillon. Nous irons également à Rome retrouver Olivier Tosseri pour évoquer l'affrontement verbal et désormais judiciaire qui oppose le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini au journaliste et écrivain spécialiste de la mafia Roberto Saviano. Et puis dans la grande table d'été en direct d'Avignon, théâtre et secret de famille, puis rencontre avec le chorégraphe et danseur Emmanuel Gatt. On retrouve Maëlys Bessery et ses invités dès la fin de ce journal. Il fallait s'y attendre, il y a des têtes qui tombent dans l'affaire Alexandre Benalla, le collaborateur de l'Élysée qui avait été filmé le 1er mai dernier à Paris en train de frapper un manifestant, d'en malmener une autre, et donc placé en garde à vue depuis ce matin pour violence en réunion et usurpation de fonction de policier. Garde à vue également pour son comparse Vincent Crase qui avait lui travaillé pour la campagne d'En Marche l'an dernier et pour l'Élysée ces derniers mois. L'affaire qui embarrasse la présidence de la République depuis 36 heures s'est donc accélérée ce matin sur son versant judiciaire. Bonjour Antoine Maret.
Bonjour.
Sur un plan plus politique, l'Élysée annonce avoir enclenché la procédure de licenciement d'Alexandre Benalla, ce qu'elle n'avait pas jugé bon de faire au moment des faits.
Effectivement, à l'Élysée, on indique que le licenciement d'Alexandre Benalla était décidé en raison d'éléments nouveaux portés à la connaissance du chef de l'État. Selon une source, ce proche collaborateur d'Emmanuel Macron aurait été destinataire d'un document appartenant à la préfecture de police de Paris qui n'était pas autorisé à détenir. Et on apprend de sources judiciaires que trois policiers viennent d'être suspendus pour avoir transmis des images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla. Celui-ci a été donc placé en garde à vue ce matin à Paris dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il est visé pour des faits de violences en réunion par personne chargée d'une mission de service public, d'usurpation de fonction, de port illégal d'un signe réservé à leur autorité publique et de complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection.
Alors on voit qu'il y a des fusibles qui sont en train de sauter. Antoine, la question à présent, c'est de savoir si cette réponse tant judiciaire que disciplinaire va suffire ou non à calmer l'émoi que cette affaire Benalla suscite dans l'opinion.
Effectivement, cette affaire révèle une série de cafouillages au plus haut niveau de l'État. L'Élysée était au courant dès le 2 mai des faits concernant Alexandre Benalla et il aura fallu attendre plus de 2 mois pour que ce collaborateur de l'Élysée soit licencié. Un licenciement qui apparaît davantage comme une réaction que comme une décision. Réaction face à la diffusion de cette information dans les médias. Ce qui laisse penser qu'au plus haut sommet de l'État, on a cherché à étouffer cette affaire. La sanction prise discrètement après les faits, 2 semaines de mise à pied, apparaît complètement dérisoire par rapport à la gravité des faits. Et dans l'opinion publique, cela laisse penser qu'à la tête de la Macronie règne la loi du deux poids, deux mesures. Enfin, la gestion de la crise ne paraît pas à la hauteur de la gravité des faits. Depuis 2 jours, le chef de l'État s'enferme dans le silence. C'est son porte-parole Bruno Roger Petit qui hier matin a joué le pompier de service dans une courte déclaration enregistrée à l'Élysée, sans trop de succès. Le chef de l'État n'a désormais plus le choix. Il va devoir s'expliquer dans les plus brefs délais sur l'affaire Benalla, affaire qui marque un essoufflement de la communication d'Emmanuel Macron.
Antoine Maret, merci à vous. Une déclaration à l'instant, celle de Gérard Collomb, qui est clairement visé directement dans cette affaire et appelé à s'exprimer. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui condamne lourdement les agissements de ces 3 responsables de la préfecture de police de Paris, qui sont donc suspendus, accusés d'avoir transmis des informations qu'ils n'auraient pas dû à Alexandre Benalla. Beaucoup de questions qui restent posées, nous disait Antoine Maret. Et parmi ces questions, il y a celle de la place exacte que jouait Alexandre Benalla dans l'entourage d'Emmanuel Macron, lui qui n'a pas qui n'apparaissait dans aucun organigramme de l'Élysée, était sans cesse aux côtés du chef de l'État, faisant figure d'homme de confiance, de chef occulte de sa sécurité. Pourtant, cette fonction, c'est celle du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République, un organe qui a été créé en 1983 par le colonel de gendarmerie Alain Le Carreau. Désormais à la retraite, il a accepté de donner son sentiment sur cette affaire à Florence Sturm.
Son rôle précis auprès du président, enfin sa place habituelle auprès du président, peut être comprise dans le fait qu'il a assuré sa sécurité, mais lorsque Macron était candidat à la présidence, à partir de là, effectivement, sont sans doute créés des liens de confiance entre eux. Ces liens de confiance existent toujours, et ce qui fait qu'il a, dans ce contexte, le contact direct avec le président. Ce qui explique pourquoi il est aussi souvent auprès du président. Ce qui explique aussi pourquoi personne, par l'effet de cours, n'ose s'opposer ou pose des questions à savoir pourquoi est-ce qu'il est toujours auprès du président. Mais il n'a pas de rôle particulier et de décision à prendre au niveau sécuritaire proprement dit dans le cadre de la présidence de la République. Le rôle de la sécurité, moi si j'avais été à la place du responsable du GSPR à l'époque, j'aurais jamais admis une chose pareille, c'est pas possible. Il y a un responsable et il y a une équipe qui agit de façon cohérente et efficace, et toute intervention extérieure qui peut conduire à, non seulement à une inefficacité de la sécurité, mais encore plus à certaines confusions qui peuvent même porter préjudice à la sécurité même du président, ça c'est clair. Donc une chose comme ça, moi je vais voir le président et je lui dis il faut mettre les choses au gabarit tout de suite, quoi. On ne peut pas mettre des séries de mille feuilles dans la sécurité où chacun est responsable de on ne sait pas quoi, où il convient d'avoir des réactivités adaptées aux menaces et immédiatement avec une cohérence dans les réactivités et dans les interventions.
Le colonel de gendarmerie en retraite Alain Le Carreau, un ancien donc du groupe de sécurité de la présidence de la République, joint par Florence Sturm. Ils sont la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France. Les transports sont au cœur d'un ensemble de mesures présentées en ce moment même, présentées ce matin en tout cas par les ministres Elisabeth Borne et Nicolas Hulot, là où les associations de protection de l'environnement espéraient une véritable révolution verte pour les transports. Pas de surprise, on est plutôt sur une intensification des politiques déjà en place. On retrouve Hélène Fromanti au ministère de la Transition écologique. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Alors comment est-ce que le gouvernement compte s'y prendre pour verdir nos habitudes de transport ?
Eh bien Camille, la mesure phare, c'est le déploiement des zones à faible émission, des ZFE, partout en France. Concrètement, ce sont des territoires, des secteurs où la circulation est restreinte en fonction des horaires, des jours et en fonction également des catégories de véhicules. Un dispositif qui a fait ses preuves, affirme le gouvernement, dans près de 200 villes européennes, mais qui n'existe chez nous qu'à Paris et à Grenoble. L'idée, c'est donc de convertir le plus de métropoles possibles, notamment les plus polluées, à ces ZFE et de mettre en place des moyens de contrôle plutôt solide. Pour remplir ces zones, l'État va aussi continuer d'inciter les Français à acheter des véhicules propres via des bonus-malus, des primes à la conversion pour l'achat de véhicules électriques et bien sûr promouvoir encore davantage les transports doux, la bicyclette, les trottinettes et puis un grand plan vélo est d'ailleurs promis pour la rentrée. Il faudra tripler la part du vélo dans les déplacements des Français d'ici à 2024. Autre axe privilégié, le covoiturage et l'autopartage. Les ministres veulent diviser par deux le nombre de trajet seul en voiture. Plusieurs pistes sont envisagées, le développement des zones de stationnement et des voies réservées aux covoitureurs, le lancement d'une plateforme numérique dédiée ou encore permettre aux employeurs de participer aux frais de covoiturage de leurs employés. Autant de mesures pour atteindre une neutralité carbone en 2050, améliorer considérablement la qualité de l'air et permettre en français de respirer mieux. Non pas que rien n'ait été fait auparavant, estime Nicolas Hulot, mais il est temps, dit-il, de prendre le taureau par les cornes.
Hélène Fromanti, merci à vous. Vous êtes priée de rentrer à la rédaction en vélo. C'est fou tout ce que l'on peut mettre dans une constitution. Après le retour du service national, la protection des données personnelles, la protection de l'environnement, les députés ont voté hier soir l'inscription de la préservation des mers et des océans donc dans notre constitution. Ils ont également validé un amendement qui avait suscité une très vive polémique lors de sa présentation il y a deux semaines. Un amendement qui prévoyait de faire disparaître le terme sécurité sécurité sociale de notre loi fondamentale pour le remplacer par protection sociale. Beaucoup à gauche y avaient vu un enterrement de la Sécu comme fondement de notre système de solidarité sociale. Sous la pression, l'auteur de l'amendement, le député Olivier Véran, avait accepté de modifier son texte et c'est donc sous cette forme qu'il a été voté la nuit dernière, Catherine Pétillon.
L'objectif est clair, élargir le champ des lois de financement de la sécurité sociale. L'amendement nouvelle version précise donc que leur périmètre pourra être étendu à tout ou partie de la protection sociale. Une formulation en réponse aux critiques récentes des syndicats et députés communistes. Ils craignaient de voir le financement de la sécurité sociale soumis à la loi de finances, avec le risque d'en faire une variable d'ajustement réduite au nom de la rigueur budgétaire. Une intention dont se défend l'auteur de l'amendement, Olivier Véran. Pour lui, ce changement de cadre institutionnel est une condition indispensable à la création d'un système de retraite universel et au financement de la dépendance, c'est-à-dire les dépenses liées à la perte d'autonomie au quotidien, les coûts des maisons de retraite, etc. Aujourd'hui, ces dépenses sont prises en charge en partie par le budget de la sécurité sociale, mais aussi par les départements via l'allocation personnalisée d'autonomie et par les ménages eux-mêmes. L'idée de l'exécutif, c'est de faire entrer complètement la dépendance dans le champ de la sécurité sociale en créant ce qu'on appelle le cinquième risque, car il s'ajouterait aux quatre autres qu'elle couvre déjà, à savoir maladie, famille, vieillesse et accident du travail. Une idée déjà ancienne, restée à l'état de projet au fil des majorités précédentes. Emmanuel Macron l'a remise sur la table en avril dernier à Montpellier en appelant, je cite, à construire un nouveau risque pour répondre à cette nouvelle vulnérabilité. Il annonce une réforme de la dépendance pour l'an prochain.
France Culture, il est midi passé de 41 minutes. C'est une scène qui se répète ces derniers jours dans le sud-ouest de la Syrie, à Kouneitra, sur la partie syrienne du plateau du Golan. Un alignement de bus vide a fait son entrée dans les zones tenues par les forces rebelles. Des bus, donc, pour évacuer ce qui reste d'habitants et de combattants dans ce secteur pour lesquels un accord de reddition des rebelles a été annoncé hier. L'autre conséquence de cet accord après l'évacuation donc des civils et des insurgés, c'est la reprise de contrôle par l'armée syrienne de la frontière du Golan annexée par Israël. Lui est devenu la bête noire du ministre italien de l'Intérieur. Le journaliste Roberto Saviano, connu pour les risques qu'il prend depuis des années pour enquêter sur la mafia napolitaine. Roberto Saviano, donc, est aujourd'hui la cible de Matteo Salvini. Le leader d'extrême droite, devenu ministre de l'Intérieur, annonce fièrement depuis ce matin qu'il a déposé plainte en justice contre Saviano, lequel l'avait traité, entre autres, de mafieux. Tout cela est bien plus qu'une bataille de coqs de l'autre côté des Alpes. On voit ça en direct de Rome avec Olivier Tosseri. Bonjour à vous.
Bonjour.
Saviano et Salvini, Olivier, c'est la confrontation de deux personnages de premier plan dans la société italienne avec un Roberto Saviano qui s'affirme de plus en plus comme l'une des voix qui porte pour dénoncer l'autoritarisme qui monte en Italie.
Exactement, symbole de la lutte anti-mafia, Roberto Saviano s'érige désormais en rempart contre la montée de l'autoritarisme dans son pays. Il redoute même qu'il ne suive l'exemple de la Russie de Poutine ou de la Turquie d'Erdogan et dénonce le silence assourdissant de la classe politique et des intellectuels, alors que la Ligue a le vent en poupe dans les sondages, que Matteo Salvini est l'un des ministres les plus populaires. Roberto Saviano donne de la voix pour le critiquer, se substituant à une opposition exsangue et muette. L'écrivain journaliste ne cesse de dénoncer le manque d'empressement de la Ligue à rembourser ses dettes judiciaires, ses soutiens douteux dans le sud de l'Italie, puis surtout la politique migratoire du ministre de la Malavita ou du ministre de la Cruauté, comme il l'a surnommé. Matteo Salvini l'avait menacé il y a quelques semaines de suspendre la protection policière dont il bénéficie depuis 12 ans suite aux menaces de mort proférées par un clan de la Camorra. Et le prenait pour cible très très régulièrement sur les réseaux sociaux. Il attaque désormais en justice, c'est une première du jamais vu. Jamais un ministre de l'Intérieur n'avait traîné un écrivain ou un journaliste devant des tribunaux. Je n'ai pas peur, a réagi Saviano. Au tribunal, Salvini sera appelé à dire la vérité, une expérience nouvelle pour lui.
Olivier Tosseri à Rome, merci à vous. On parlait à l'instant de politique migratoire. C'est un refus catégorique en la matière qu'oppose le gouvernement libyen d'Union nationale à l'idée européenne d'installer des centres d'accueil pour migrants sur son territoire. Le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, se dit absolument contre ce projet qui reviendrait selon lui à installer en Libye des dizaines de milliers de migrants illégaux dont on ne veut pas dans l'Union européenne. L'homme fort de Tripoli récuse aussi les accusations lancées par des ONG en Méditerranée selon lesquelles celle des gardes-côtes libyens, aurait abandonné en début de semaine à la noyade deux femmes et un petit garçon. Nous sauvons chaque jour des centaines de personnes, mais nous avons besoin de plus de soutien financier pour être plus rapide et plus efficace dans les sauvetages, dit encore donc le Libyen Fayez Al-Sarraj dans une interview au journal allemand Bild. 19 départements français placés en vigilance orange pour des risques d'orages violents. C'est de l'Ariège aux Deux-Savoies en remontant jusqu'à l'Allier, mais la région PACA, elle, est pour le moment épargnée. Elle sera sous le soleil tout cet après-midi. Le reste du pays, lui, est sous les nuages et les averses aussi des Hauts-de-France jusqu'à la région parisienne. Côté température, c'est le grand écart entre 19 degrés au Havre et 32 à Nîmes cet après-midi. Julien Loquet réalisait ce journal, mis en onde par Jacques Hubert. À 18h, l'info revient avec Stanislas Vazac.